En 2018, le collège d'Illois Sainte-Marie fermait ses portes. Une nouvelle difficile pour les riverains, même si le bâtiment est rapidement devenu l'objet de nombreux projets. En attendant 2025, date à laquelle promet d'être achevé le projet définitif porté par l'association Habitat et Humanisme, l'endroit s'est transformé en un atypique tiers-lieu. Rencontre le mardi 16 mars dernier avec Brigitte Lortiwa, coordinatrice du tiers-lieu pour Habitat et Humanisme, aux côtés d'Anne-Laure Thomas, chargée de mission au sein du pôle communication ressources financières de l'association.
L'association Nord-Pas-de-Calais Habitat et Humanisme est une des 55 associations du mouvement Habitat et Humanisme. On est regroupé en fédération. Les associations sont regroupées dans une fédération Habitat Humaniste qui est basée sur Lyon. Notre association compte à peu près 80 bénévoles. La mission d'Habitat Humanisme, c'est d'accompagner des personnes en précarité en les insérant dans un logement, en leur trouvant un logement. C'est l'activité principale de notre association.
À Lille, c'est une véritable préoccupation, la question du logement.
Oui, puisqu'on est un département le plus défavorisé au niveau pauvreté et au niveau besoin en logements sociaux. Les personnes que l'on loge, généralement, ne sont plus acceptées dans le système des bailleurs sociaux. Donc, il faut pour ne pas être à la merci des marchands de sommeil, il faut absolument leur trouver un logement adéquat à leurs ressources, qui sont très faibles, et en même temps les accompagner pour se réinsérer dans une vie normale et ensuite repartir vers le logement social.
Aujourd'hui, on se retrouve au sein du collège Sainte-Marie, enfin de l'ancien collège Sainte-Marie. Quelle est l'histoire de ce projet et comment vous êtes arrivé ici ?
On avait une relation très amicale et une expérience immobilière intéressante avec la congrégation des filles de l'Enfant Jésus. Quand est venu pour la congrégation le choix de récupérer ce bâtiment, ils se sont adressés à nous parce qu'ils savent que nous avions ce volet social qu'ils souhaitaient pour la réhabilitation de ce site. Ici, c'est là où s'est créée la congrégation des filles de l'Enfant Jésus. Ça avait une force, une historique très importante pour Sœur Emmanuelle Duez. Et donc, nous respectons son engagement et nos engagements en créant ce tiers-lieu.
Donc, il y a un projet en deux temps, il y a quelque chose qui va se construire dans plusieurs années, et en attendant, ça va se transformer en tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, vous, de base, quel était votre projet ? Est-ce que ces deux projets sont nés en même temps, ou comment ça s'est fait ?
Mais pas du tout. Donc, on a eu ce bâtiment. Il fallait construire un projet définitif, évidemment. On a d'abord travaillé dessus, et on travaille toujours dessus. Il y a deux temps. Il y a une équipe qui travaille sur le projet définitif, et il y a une équipe qui travaille sur le projet éphémère en attendant la réalisation de ce projet définitif. Et toujours sous l'aspect social et ouverture sur le quartier. Au début, le bâtiment a été vandalisé. Il ne présentait aucune sécurité pour les voisins. Il y avait des dégradations, des introductions d'ennuis, etc. Donc, on a cherché d'abord à refaire vivre le bâtiment. On a accueilli avec monsieur le préfet, évidemment, un centre d'hébergement d'urgence en janvier 2020. Ensuite, début un peu difficile parce que suroccupation du centre d'hébergement d'urgence, donc ils avaient un accueil un peu mitigé dans le quartier. Mais tout ça, c'est avec l'association SOS Solidarité, Aplani, maintenant il y a une intégration et il n'y a plus de troubles causés du tout par le centre d'hébergement d'urgence. Et nous, on en a fait une force, c'est-à-dire qu'on a voulu recréer dans les espaces vides un lieu de synergie où ces personnes ne se sentent plus exclues, mais par contre intégrées dans l'activité professionnelle, dans la vie de tous les jours, des jeunes entreprises, des jeunes associations qui pourraient rentrer en synergie avec eux.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'elles peuvent venir faire ces personnes ici?
Alors ici, il y a des activités avec Bene Nova, par exemple, qui est une association qui favorise le bénévolat ponctuel des demandes d'entreprise pour une action caritative ou pour les Bricots du cœur, ou etc. Il y a Entourage également. Entourage est une association qui crée du lien social avec les personnes, les SDF, sans domicile fixe. Il y a des personnes artistes. Il y a à peu près 90% de demandeurs d'asile. Et donc, ça vit bien. En tout cas, ce n'est vraiment pas un obstacle à l'occupation de ce lieu par d'autres personnes, comme on aurait pu peut-être le croire.
Oui, parce que justement, il y a des entreprises qui sont présentes ici. Qui sont-elles? Et est-ce qu'elles ont aussi une dimension sociale et solidaire dans leur travail?
Exactement. Et aussi écologique, on dira. C'est aussi un axe de développement de ce tiers-lieu. En professionnel, on a un atelier, un cabinet d'architecture, au architecture. En associatif, on a les boîtes à vélo. C'est une association qui regroupe des entreprises sociales et solidaires entre elles. Donc nous, on les encourage. On a pu offrir en fait un loyer assez faible qui leur permet de tester leur entreprise pendant 3 ans.
En bref, quelles sont les valeurs de ce tiers-lieu ?
Ouverture,
agilité,
je dirais.
Agilité,
solidarité,
interaction.
Et écologie.
Pour répondre à la question du mal logement, l'association Habitat et Humanisme compte sur la solidarité pour réhabiliter des espaces capables d'accueillir et d'accompagner des personnes dans le besoin. Aujourd'hui devenu un tiers-lieu éphémère qui regroupe associations comme entreprises, l'ancien collège Sainte-Marie promet d'être totalement repensé pour accueillir son projet définitif d'ici 4 ans.
Le projet définitif, c'est la mission d'Habitat et Humanisme, c'est créer du logement pour les plus précaires. Donc, en ce sens, pour l'instant, on avait un développement de ressources immobilières sur le diffus, des petites maisons achetées dans le diffus. C'était le meilleur moyen de réinsérer les personnes dans des quartiers équilibrés. Et c'est offert avec ce bâtiment, avec cet espace de plus de 2600 m² quand même au sol, et 4000 m² de surface de plancher, une opportunité pour réaliser un habitat collectif. Ce qu'on n'avait pas encore sur la région lilloise. Et nous avons le projet, en partie un projet mixte, qui regroupera des équipements publics, recevant du public, qui recevra des logements sociaux, nous, une pension de famille de 22 logements et une résidence intergénérationnelle de 18 logements. Ces résidences intergénérationnelles, c'est une particularité, je dirais, d'Habitat et Humanisme, qui en a déjà plus de...
Quarantaine en France.
Pour nous, c'est un test. Également, la pension de famille. La pension de famille, c'est des petites sudettes et qui sont dirigées à des personnes isolées, des seniors, et des jeunes vraiment entre l'état, je dirais, en transition, de revenir vers une vie normale et sédentaire.
Comment est reçu ce projet par les gens du quartier et les gens de la ville, que ce soit tout d'abord le tiers-lieu en ce moment, quel accueil a été fait à ce projet?
Le tiers-lieu, malheureusement, on n'a pas encore l'ampleur que l'on devrait avoir, puisque toutes les activités collectives actuellement n'ont pas débuté. Donc l'ouverture sur le quartier, on l'a au travers de l'action des petites entreprises qui sont présentes. Mais on n'a pas encore le rayonnement qu'on souhaiterait.
Parce que ça avait été quand même un coup assez difficile pour les gens du quartier d'apprendre la fermeture de ce collège. Comment est-ce que vous faites votre place, vous, après ça?
Par exemple, dans les activités collectives, artistiques qui seront présentées et culturelles, il y aura toujours une place pour des personnes qui sont, par exemple, Winston Churchill ou les quartiers populaires du Vieux-Lille. Parce qu'il ne faut pas croire, le Vieux-Lille n'est pas extrêmement riche. Et il y a énormément de personnes socialement isolées, des seniors notamment, qui pourront être accueillis ici dans le café des aidants. Et donc, pour s'ouvrir sur le quartier, évidemment, on a répondu. On était en lien avec la mairie de quartier. Ça a été notre première démarche. Aller voir la mairie de quartier et également la maison de quartier qui nous ont aidés à trouver, à solliciter des associations désireuses d'espace. Mmh. Il y a notamment l'association Cause Toujours, je ne sais pas si vous la connaissez, non. Roger Kahn, qui est une association de culture, pas populaire, culture urbaine, ce qu'on appelle, donc hip-hop, graff, il a aussi des activités qu'il mettra en yoga, en tai chi, en méditation, peut-être en sophrologie et en même temps de la danse de salon. Il propose diverses activités qui plairont à tous.
On espère, c'est quand même bien d'avoir une composante numérique dans le projet tiers-lieu.
Oui.
Bon après, c'est pas essentiel non plus, hein.
En attendant l'inauguration de cette nouvelle adresse dans quelques années, l'association Habitat et Humanisme s'appuie beaucoup sur ses bénévoles et espère en voir de nouveau rejoindre l'aventure pour animer ce lieu lors de son ouverture officielle. Un appel au financement pour soutenir le projet est également lancé. Toutes les informations sont à retrouver sur le site d'Habitat et Humanisme. Le 16 mars dernier, c'est cette invitation à la solidarité que reprenait Brigitte, coordinatrice du tiers-lieu pour l'association Habitat et Humanisme.
Voyez, soutenez-nous parce que ça marche. Et que ce rêve, parce que c'était une utopie quand même au départ, hein, comme je dis, on a monté la première marche de l'escalier sans voir le bout de l'escalier. Voilà. On continue, mais on est déjà à la moitié de l'escalier, je pense. Et donc, c'est vraiment la belle réalisation d'un rêve. Et qu'on a pu le réaliser grâce à la congrégation des filles de l'enfant Jésus. Je ne les oublie pas, parce que sans la confiance que Sœur Duez nous a donnée, on n'aurait pas pu réaliser ce tiers-lieu. Et cet esprit aussi de solidarité, d'entraide et d'agilité.
Un reportage réalisé par Manon Sereine pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.